Bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. On est bien content de vous retrouver cette semaine pour discuter un peu d'astronomie. Alors c'est le 68e épisode de l'émission. Et c'est un peu aussi la dernière émission, on va dire, sous cette forme en tout cas pour l'été. Puisqu'ensuite, on va vous expliquer un petit peu, mais ça, voilà, cet été, il va y avoir une petite pause. Il y aura quand même des choses à l'antenne, on va vous raconter. Alors, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le podcast hein, en allant sur le site de RDIWA, rdwa.fr, émission thématique « L'étoile polaire ». Voilà, là, vous trouverez un peu les enregistrements depuis le mois de décembre. Toujours pas encore le nouvel hébergeur, donc vous n'avez toujours pas accès à l'intégralité des émissions, mais ça va venir un jour. Et avec les photos qui illustrent le podcast et qui sont prises par les membres de l'équipe Rémi et Axel. Voilà, vous pouvez aussi nous joindre par mail astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie d'échanger au sujet de l'émission, au sujet de l'astronomie en général, ou si vous avez envie, donc là ce sera en septembre, mais de nous rejoindre dans la rubrique Nouvel Œil pour venir un peu nous proposer votre témoignage par rapport à votre pratique de l'astronomie, si vous en avez une. Voilà, alors le sommaire de cet épisode, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir pour un peu voir ce qu'on peut observer en ce moment, ce début d'été. Ensuite, on parlera de Marignac Fête les Étoiles, donc le petit festival d'astronomie que nous organisons pour la troisième année maintenant à Marignac et qui se tiendra le 3 août. Et puis après la pause musicale, ce sera dans la rubrique Abrac, je vous parlerai des missions d'exploration spatiale lointaines en cours, c'est-à-dire un peu quelles sont les sondes qui sont un peu dans la ceinture d'astéroïdes et au-delà et qui nous permettent d'explorer un peu les régions lointaines du système solaire. Voilà, alors comme je le disais, donc ce 68e épisode, ça va être un peu le dernier de la saison, donc diffusé hein, comme d'habitude deux dimanches de suite. Celle d'après, ce sera une émission musicale. Axel, si tu veux la présenter et dire un mot.
Ouais, ce sera une émission musicale, mais quand même en rapport avec l'astronomie, puisque je vous ferai une petite sélection de ce que la NASA appelle les Wake Up Songs, donc les chansons pour se réveiller, qui sont diffusées depuis longtemps dans les missions dirigées par la NASA, qui sont diffusées dans les vaisseaux, voilà, pour réveiller les astronautes. Voilà, il y a plein d'histoires à raconter dessus, et puis il y a plein de sons qui sont intéressants aussi, donc voilà, je vous passerai ça.
Ça marche.
Donc pour les deux prochaines émissions, peut-être trois, peut-être plus, je sais pas.
Deux. On va voir un peu comment ça se goupille. Ouais. En tout cas, sur la deuxième quinzaine de juillet, vous aurez ces émissions-là avec les Wake Up Songs.
C'est ça.
Et ensuite, on en reparlera, mais le 3 août, il y a donc Marignac et il y aura des conférences. Donc pendant le mois d'août, en fait, on vous passera des enregistrements de ces conférences et de ces foires aux questions qu'on y organisera. On en redira un mot tout à l'heure.
Yes.
Voilà pour cette petite introduction. Alors on va commencer comme d'habitude par le ciel ce soir. Et cette fois-ci, Axel, c'est toi qui prends la parole.
Yes, le ciel de ce soir, de ce milieu de mois de juillet, c'est l'été. Donc évidemment, l'été, on a le triangle d'été qui porte bien son nom. Et puis voilà, c'est le ciel, je pense que tout le monde connaît le plus, en dehors de peut-être Orion, que les gens connaissent bien l'hiver. Mais voilà, le ciel emblématique et le plus connu, je pense que c'est celui-là qui nous concerne et qui s'illumine au-dessus de nos têtes le soir en ce moment. Avec, par exemple, avec la grande ourse qui est à sa place, là, qui a sa forme de casserole, bien droite, pas prête à renverser tout son contenant, son contenu, pardon. Et puis on a ces étoiles bien brillantes que je vais répéter. On en a parlé avec Pierrick la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je répète, ces étoiles les plus brillantes du moment, les quatre premières qui s'allument. Allez, on va dire cinq premières qui s'allument. Ce sera Arcturus, qui est légèrement jaune-orangé, qui se trouve derrière la grande ourse, justement, donc facile à trouver. On a ensuite le triangle d'été, donc avec Altaïr, qui est la plus basse, de ce triangle, avec Vega qui est la plus brillante et avec Deneb qui est dans la Voie lactée. Voilà ce grand triangle, Deneb, Vega, Altaïr.
Vega légèrement bleutée.
Ouais. Et puis, tout près de l'horizon, au sud, on a aussi la magnifique Antares, cette étoile bien rouge. Voilà, dans le scorpion, l'œil du scorpion, le cœur du scorpion. Mmh. Voilà un petit peu. Au niveau des planètes, eh ben une bonne nouvelle aussi, c'est que Saturne est visible de plus en plus tôt. Là, ça y est, on peut la voir à minuit et demi maintenant. Quelque chose comme ça, ouais. À minuit et demi, elle passe l'horizon. Donc si vous avez un peu de relief à l'est, ben, il faut attendre un peu plus, évidemment. Mais voilà, elle commence à être accessible sans avoir à veiller jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Par contre, c'est toujours le cas pour Mars et Jupiter, qui sont relativement proches l'une de l'autre, qui sont en ce moment dans le taureau, tout près d'Aldébaran, une autre étoile assez brillante. Et elle, voilà, il faut attendre 4h, voire 4h30 du matin pour les voir. Ou attendre le mois d'août ou septembre même.
Ils vont se décaler petit à petit. Après, c'est sûr que bon, faire des observations au télescope sur des planètes qui sont basses comme ça, à l'aube, c'est pas génial, ça turbule beaucoup. Par contre, pour Saturne, là, on doit pouvoir commencer.
Oui, Saturne, ça...
D'ailleurs, ça fait une belle image qui va illustrer le podcast de cette émission.
Eh bien, allez, ainsi soit-il.
Où on voit justement les anneaux qui, là, sont dans une configuration...
Très serrée.
Très serrée, ouais, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans le plan des anneaux, du coup, on les voit peu. Enfin, on les voit quand même, mais on a l'impression... on est par la tranche, quoi, un petit peu. Donc, c'est pas non plus le Saturne le plus spectaculaire qu'on puisse avoir.
Oui, je crois que le moment où l'anneau sera le plus refermé, ça sera en mars 2025. Et j'essaierai de prendre une image à ce moment-là pour avoir Saturne sans ses anneaux quasiment, puisque quand ils sont de face, de profil comme ça, on les voit quasiment pas.
Ouais. Moi, ça m'est arrivé de l'observer il y a quelques années comme ça.
Ah,
ouais. Non, mais c'est pas Saturne, c'est pas possible.
c'est un cycle de 16 ans, je crois.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre.
Mais oui.
C'est un peu décevant aussi.
Mais oui, bien sûr. Voilà, et puis si je dois vous parler d'une petite constellation, bah tiens, j'ai parlé d'Antares, l'étoile rouge à l'horizon, dans le scorpion, à sa gauche, en allant vers l'est, il y a la Voie lactée qui démarre ici, et puis de l'autre côté de la Voie lactée, juste à côté, on a le Sagittaire, une des constellations du zodiaque, et une des constellations qui a sans doute le plus grand nombre d'objets messiers, puisqu'il y en a 15 à observer dans le Sagittaire. Principalement des amas globulaires, quelques amas ouverts et des magnifiques nébuleuses, comme celle de la nébuleuse de l'Aigle. Est-ce qu'elle est dans le Sagittaire? J'ai un doute, tiens, en le disant. Elle est juste au-dessus, et peut-être qu'elle est dans l'écu de Sobieski, qui est juste au-dessus. Bon, elle est à la frontière. Mais sinon, ce dont je suis sûr, c'est qu'on y trouve la Lagune, M8, la Trifide, M20. Et puis voilà, plein d'autres belles choses à voir dans le Sagittaire.
On le voit d'ailleurs, même à l'œil nu et aux jumelles, c'est encore plus flagrant. Et surtout en utilisant un peu la vision décalée, hein, on en a déjà parlé, on observe un petit peu à côté et on voit mieux en fait tout ce qui est un peu nébuleux.
Ouais.
On voit dans cette zone, il y a plein de choses en fait. On voit même à l'œil, quand le ciel est bon, plein de petites taches qui sont autour du Sagittaire. Et on a effectivement une région qui est très très riche en objets. On peut juste aussi mentionner qu'entre le Sagittaire et le Scorpion, c'est la direction du centre galactique.
Et oui.
Toujours une petite émotion. Quoi.
Bah oui.
Même si bon, il ne se manifeste pas par grand-chose de précis, il n'y a rien qui l'indique réellement, mais il est là.
Oui, d'ailleurs, le trou noir qui siège au centre de notre galaxie, ce trou noir supermassif, a pris ce nom le nom de cette constellation, on l'appelle Sagittarius A étoile. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le Sagittaire? C'est une très vieille constellation, hein, parce que ça date de l'époque babylonienne où il avait déjà repéré et annoté, donc c'était en 1200 avant Jésus-Christ. Elle s'appelait à l'époque Pabilsag, dans les écritures qu'on a retrouvées, et c'était une manifestation du dieu de la guerre, Ninurta, qui était là entre autres pour combattre Haru, qui est l'aigle, qui est resté l'aigle ensuite, qui est juste au-dessus.
C'est pas très étonnant que cette constellation elle ait été identifiée ou en tout cas désignée comme telle dans les temps anciens, parce qu'elle est assez claire en fait. Ça fait partie de ces constellations qui dessinent vraiment un ensemble en fait. Parce que voilà, ces étoiles là elles forment un dessin, et puis autour il n'y a pas forcément, enfin il y a d'autres choses, mais plus loin quoi. Le dessin il est clair en fait.
Ouais.
On voit bien que ça c'est comme Orion, c'est comme d'autres.
Oui, dans plein de mythologie, elle a été, plein d'astrologie, elle a été mentionnée, cette tas d'étoiles, sous différents noms et différentes formes.
Pour compléter un petit peu ce que tu as dit sur le tour du ciel, je vais rappeler un peu cet alignement classique qui permet quand même, surtout en été, je trouve, de se repérer un peu en partant de la Grande Ourse, de prendre le manche de la Grande Ourse, de la casserole, on va dire, qui forme donc une sorte d'arrondi, de poursuivre cet arrondi pour arriver justement sur Arcturus, l'étoile orangée. Si on poursuit cette courbe de la Grande Ourse, on arrive sur Arcturus. Si on continue plus bas, on arrive sur l'Épi dans la Vierge. On voit l'Épi, la Vierge elle-même, une constellation qui est quand même plus diffuse. Par contre, une fois qu'on est sur Arcturus, eh bien, qu'on repart un petit peu là, vers le triangle d'été, en fait, là, on tombe sur la couronne, ce demi-cercle. On rappelle que dans ce demi-cercle, il y a une nova qui doit arriver cette année. On ne l'a toujours pas encore vue, on le dit à chaque fois, mais guetté, ça peut être à chaque nuit. Hein.
Oui, a priori, statistiquement, ça devrait arriver avant septembre, donc, ça ne devrait pas tarder. Puis tant mieux que ce soit maintenant, puisque jusqu'à maintenant, le ciel était toujours couvert.
Le ciel était toujours couvert, là on a une petite
si
fenêtre.
Si c'est un peu mieux, ce sera peut-être l'occasion de voir cette nouvelle étoile, d'où le nom, Nova. Qui va apparaître pour une petite semaine dans cette constellation.
Tout à fait, donc à guetter. Et puis si on continue de Arcturus, on passe par l'étoile centrale de ce demi-cercle, la Perle ou Margarita, la plus brillante. On continue et on arrive sur le H d'Hercule. Là aussi, voilà, constellation assez classique de l'été. Sous Hercule, on a une constellation qui a une drôle de forme, qui s'appelle Ophiuchus, ou le serpentaire. C'est assez, on dirait, une espèce de contour d'un grand bateau avec sa voile. Enfin bon, je ne sais pas trop comment décrire ça. Ou un gros patatoïde aussi, certains diraient. Mais qui est là, assez grand. Voilà. Et puis, dans les lueurs quand même du couchant, en début de nuit, sous la Grande Ourse, un peu plus bas, vous avez quand même encore le lion et qui se couche en même temps que le soleil quasiment.
Oui, ça. Non, à la limite, c'est la Vierge qu'on peut encore.
La Vierge, on la voit. L'Épi, on la voit un petit peu.
Ouais, voilà. Ouais. L'étoile la plus brillante de la Vierge. En dessous d'Arcturus.
Voilà, par rapport au ciel ce soir, oui, je voulais compléter une dernière petite chose, c'est que là, on arrive au moment où, en fait, la Terre est le plus loin du Soleil.
Ah oui.
Au courant du mois, là, de mi-juillet. Donc, c'était juste aussi pour faire cette petite remarque que, oui, c'est en plein été que la Terre est le plus loin du Soleil et que, donc, en fait, ça n'a rien à voir, été-hiver, avec la distance au Soleil. C'est bien l'inclinaison, en fait, de la Terre sur son axe qui crée les saisons. Mais là, on ne va pas entrer là-dedans. Mais c'était juste pour mentionner ça.
D'ailleurs, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud en ce moment.
Et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Je crois qu'on a fait un bon petit tour.
Bah oui.
Alors, on vous engage à observer le ciel et à venir l'observer avec nous. Donc, à Marignac, le 3 août. Alors, toujours sur la base de loisirs de Marignac, à l'entrée du village. Pour la troisième année consécutive, donc l'Astroclub du Diwa organise cet événement. Alors on va quand même rappeler qu'à la base, c'est Monsieur Bernard Cellier, l'actuel maire de Marignac, qui a créé cet événement.
Avec l'association Marignac à ciel ouvert.
Voilà, donc il l'a animé pendant plusieurs années. Et puis, là, ça fait 3 ans qu'il nous a dit, je passe la main, est-ce que vous êtes intéressé? Donc, nous, avec grand plaisir, on a repris l'organisation de cet événement. Et donc, on en profite pour remercier Bernard Cellier, une fois de plus, quand même, à l'antenne.
Et toute son équipe.
Donc, qu'est-ce qui va se passer le 3 août à Marignac? Alors, contrairement aux 2 années précédentes, là, on a décidé d'arrêter un peu tout ce qui était animation enfant dans l'après-midi, etc. Et d'ouvrir le site un peu plus tard. Donc, on va ouvrir à 17h. Le samedi 3 août, à 17h, on va ouvrir et là, il y aura quoi ? Il y aura observation du soleil avec des instruments spécifiques. Il y aura aussi l'expo photo de Rémi qui sera là. Évidemment, il y aura la buvette. On rappelle que l'entrée sera toujours à prix libre. Donc voilà, c'est un événement associatif. Hein. Nous, on fait ça bénévolement, mais l'idée, c'est déjà de pouvoir... de pouvoir payer ce qu'il y a à payer sur l'organisation et de pouvoir aussi un petit peu défrayer, à défaut de payer, les musiciens ou les gens qui viennent animer. Puisque jusqu'à présent, on est quand même, autant le dire à l'antenne, hein, ça motivera votre générosité, mais tous ces gens-là sont bien gentils de venir parce que c'est pas avec ce qu'il y a dans les caisses qu'on peut les payer réellement. Donc eux aussi font une sorte d'acte militant en venant pour votre plaisir et pour le leur, en fait. Voilà. Oui. Alors donc, à 17h, observation du soleil, les photos de Rémi qui seront là. Et à partir de 18h, on aura donc une conférence. Donc cette année, ça va être Michel Dumas, qui est montreur d'étoiles, qui est à la retraite maintenant, ouais, et qui a passé de nombreuses années de sa vie à montrer le ciel, à parler d'astronomie. Donc il va nous faire une conférence sur la navigation aux étoiles.
Ouais, il va au passage nous présenter différents instruments qu'il aura avec lui, qui servent ou qui ont servi à la navigation grâce aux étoiles, donc les plus connus, les sextants, octants, et puis des moins connus comme les astrolabes et d'autres que j'ignore et que j'aurais plaisir à découvrir d'ailleurs ce jour-là.
Tout à fait.
Avec Michel. Voilà, ouais, sa conférence qui sera
ensuite prolongée par un, donc a priori qui va durer jusqu'à 19h30, c'est un petit peu le timing qu'il nous a donné,
ouais.
Et on va poursuivre jusqu'à 20h en fait avec une sorte de foire aux questions, à la fois sur sa conférence mais aussi sur l'astronomie en général. Si vous avez des questions à nous poser, ben on sera là avec Axel pour y répondre. Ça va nous amener à l'heure du repas.
D'ailleurs, vous pouvez préparer vos questions dès maintenant.
Vous pouvez préparer vos questions, ouais.
Nous, on ne préparera pas nos réponses. Si on peut, on vous répondra. Mais des fois, on ne peut pas, et puis c'est le jeu aussi.
C'est le jeu aussi. Ensuite, ce sera le repas. Donc là, cette année, c'est l'association La Parallèle qui viendra cuisiner pour nous. La Parallèle, on rappelle, c'est cette association basée dans le Diwa qui met de l'énergie pour aider en fait, les migrants à arriver, à s'installer et à trouver une place en France. Donc voilà. Et ensuite, au moment où le soleil commencera à se coucher, eh bien, on fera un grand tour du ciel. Donc toujours pareil, avec le laser, on aura les micros, donc tout le monde pourra bien nous entendre. Et on vous montrera les constellations. Et puis ensuite, eh bien, ce sera l'observation au télescope. Donc on aura plusieurs télescopes qui seront montés là sur le petit terrain de foot qui nous sert d'observatoire. Et avec des astronomes amateurs qui seront là derrière chaque télescope pour vous faire observer. Alors on aura quand même deux petites particularités. Il y aura d'un côté le visuel assisté. Donc le visuel assisté, en fait, c'est quand on projette sur un grand écran ce que le télescope voit.
Qui permet du coup à tout le monde d'observer en même temps.
Voilà.
Et également aux personnes qui auraient du mal à accéder à l'oculaire, parce que parfois c'est dans des positions
pas évidentes. Pas toujours évidentes. Ouais,
si on est trop petit, trop grand, trop âgé, handicapé, je sais pas. Bon, voilà, ça peut être intéressant cette solution du visuel assisté. Puis ça permet aussi de révéler des choses qu'on ne pourrait pas voir dans un télescope, même un gros télescope.
Parce qu'en fait, ça revient à prendre des photos. On superpose des temps de pose qui peuvent être de l'ordre de quelques dizaines de secondes ou de quelques minutes. Du coup, c'est beaucoup plus sensible que l'œil. On rappelle que l'œil, il fait 24 images par seconde. Donc en fait, vous avez c'est comme si vous avez un temps de pause d'un 24e de seconde quand vous observez. Donc il est évident que quand vous faites une pause de 20 secondes, vous avez plus de lumière qui rentre et vous avez plus de détails qui sont révélés. Et c'est exactement aussi pour ça que beaucoup d'astronomes amateurs se tournent vers l'astrophoto. Parce que c'est une pratique qui permet justement de révéler plus de détails, même si on n'observe pas directement l'objet. Bon, oui. C'est autre chose.
Oui.
Mais en tout cas, ça permet de mieux voir. Donc voilà, vous aurez le visuel assisté. Et il y aura aussi, je continuerai en fait à faire des tours du ciel un peu toute la soirée. Je me suis dit, bon, toutes les 20 minutes, donc au laser, mais sans micro en fait, uniquement pour les gens qui voudront en fait le suivre et regarder en fait encore. Parce que c'est vrai que c'est pas en venant une fois par an et juste quand on vous montre une fois le tour du ciel que vous pouvez... que vous pouvez vous mettre dans l'œil toutes les constellations et tous les dessins qu'il y a dans le ciel. Donc voilà, on répétera ça de façon régulière dans la soirée pour tout le monde. Et puis donc l'observation. Et tout ça se fera en musique avec nos amis de Vie de Chien Rouge. Une fois de plus, qui sont fidèles au poste, et ça nous fait bien plaisir. Ouais. Donc, qui font leur musique électronique ambiante pour accompagner l'observation du ciel. Voilà pour cet événement.
Et ça s'arrête quand ? À quelle heure ?
Alors, il n'y a pas vraiment d'heure, en réalité. Nous, on sera là.
Jusqu'à ce que le soleil se lève, à peu près.
Voilà, ça finira de toute façon quand le soleil se lèvera. La musique s'arrêtera forcément avant. Mais voilà, on vous invite en tout cas à venir en famille, ou avec ou sans enfants. Enfin, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas d'âge pour observer le ciel. Donc on espère vous retrouver nombreux et nombreuses le 3 août à Marignac.
Ouais. Je répète, à partir de 17h pour observer le soleil et à partir de... je sais pas, de 21h30, 22h pour commencer
le tour du ciel, ouais,
à regarder les étoiles.
C'est ça. Voilà.
Et, ah oui, une dernière précision, et s'il fait moche ?
Oui, alors évidemment, moi, s'il pleut, là, ce sera clairement annulé. Donc à ce moment-là, on va flécher quand même l'arrivée à Marignac. Donc à la sortie de 10, on mettra un panneau annulé pour que ce soit clair et que vous n'ayez pas à monter. En tout cas, c'est sûr que s'il pleut, c'est pas la peine de venir. Après, si c'est nuageux, on avisera. On peut pas savoir à l'avance est-ce que ça va se dégager ou pas. C'est vrai que bon, jusqu'à présent, les deux dernières années, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à ce que l'événement ait lieu. Mais cette année, c'est toujours la grande inconnue, comme toujours en astronomie. Oui. On espère que ce sera bon. Ok, alors on va faire une petite pause musicale. Et cette semaine, ça va être les Doors avec leur morceau « People are strange ».
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're
bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. 107.5, 101.7 dans le pays de Luc. Alors, rubrique à braque, on va parler des missions d'exploration spatiale lointaines qui sont en cours.
Alors, c'est vers d'autres galaxies, tout ça ?
Non, alors voilà, quand c'est ça aussi, lointain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Donc en fait, au niveau des planètes, des géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et un peu plus loin, donc la ceinture de Kuiper. Donc justement, je vais commencer peut-être par un petit tour de géographie étendue du système solaire pour rappeler un petit peu les distances et les échelles de ce qu'il y a autour de nous. Oui, alors juste, je dis aussi que les missions spatiales dont je vais parler sont celles qui sont encore actives, c'est-à-dire celles qui émettent encore des données. Par exemple, Pierrick avait parlé de Cassini-Huygens il y a quelques temps, mais je ne vais pas en parler parce qu'elle s'est écrasée sur Saturne, donc on n'en parle plus. Alors, dans le système solaire, on mesure les distances en unités astronomiques. Donc, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, et ça vaut à peu près 150 millions de kilomètres. Donc en fait, on dit que ça, c'est 1. C'est la distance Terre-Soleil, c'est 1. Donc par exemple, 1 mètre, pour se faire une échelle, pour se donner une représentation. Alors, si on prend cette échelle-là, quelles sont les distances dans le système solaire ? Alors, vous avez la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, qui est à 0,4 unités astronomiques. Donc on va imaginer, voilà, 40 cm du Soleil, vous allez avoir Mercure. À 70 cm, vous allez avoir Vénus. Ensuite, à 1 mètre, vous aurez la Terre. Et à peu près à 1,50 m, vous aurez Mars. Ça vous donne une idée du système solaire interne. Si maintenant, on veut aller jusqu'à Jupiter, là, on est à peu près à 5 mètres. Donc, on fait déjà un saut. Saturne va être à 10 mètres. Donc, on commence à être quand même bien loin. Uranus à 20 mètres et Neptune à 30 mètres. Bon, je vous ai fait des approximations, hein, mais c'est pour se donner vraiment un ordre de grandeur. Donc imaginez Soleil-Terre 1 mètre, Jupiter 5, Saturne 10, Uranus 20, Neptune 30. Donc ça vous donne déjà un indice un petit peu des distances dans le système solaire. Alors, entre Mars et Jupiter, on a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, qui est un anneau qui se situe entre 2 et 3 unités astronomiques. À peu près, donc entre 2 et 3 mètres. Donc on a dit Mars 1,50 m, Jupiter 5 mètres, et bien là, entre 2 et 3 mètres, vous avez un anneau qui est dans le plan du système solaire et qui est constitué de tout un tas d'astéroïdes, de corps plutôt rocheux qui sont là, dont fait partie la planète naine Cérès, dont on a déjà parlé, qui elle est à 2,70 m, 2,7 unités astronomiques. Donc voilà pour ce système solaire interne. Donc ensuite, on passe à Jupiter, on l'a dit, jusqu'à Neptune, 30 unités astronomiques. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc là, c'est une autre ceinture d'astéroïdes qui vont être plutôt, oui, il y a du rocheux, mais aussi glacé, beaucoup de glace. On commence à être très loin du Soleil, et là, le Soleil, à cette distance-là, ne chauffe plus beaucoup. Donc on a des corps qui sont quand même très froids. Et là, cette ceinture, elle est grosso modo, elle est plus étendue que la petite ceinture d'astéroïdes qui est à l'intérieur du système solaire. Cette ceinture de Kuiper, elle fait entre 30 et 60 unités astronomiques. Donc là, vous avez une zone de 30 unités astronomiques, à peu près, qui sont remplies d'objets qu'on qualifie de transneptuniens. Donc on a déjà eu l'occasion de parler de cette ceinture de Kuiper un peu plus en détail dans des émissions précédentes. Il y a différents objets en fait qui ont été repérés, différentes planètes naines en fait, et on pense qu'on va en découvrir d'autres. Le truc, c'est que c'est pas complètement évident parce qu'on a des corps qui sont petits et qui sont froids. Donc pour les très peu lumineux, pas lumineux du tout d'ailleurs, parce qu'ils n'émettent pas de lumière.
Donc ils exercent peu de gravité aussi, ils ont une petite masse.
C'est ça, donc c'est vraiment pas facile à détecter. Mais j'ai oublié les noms là, mais il y en a 5 ou 6, j'avais fait une émission là-dessus.
Vesta, Makemake, Omea.
Voilà. Et donc là, vous avez Pluton. Pluton, qui, on rappelle, a été déclassé, ne fait plus partie des planètes, mais fait partie des planètes naines, et donc des objets de la ceinture de Kuiper, qui a une orbite extrêmement elliptique, et dont la distance, du coup, au Soleil, varie entre 30 et 50 UA. Donc, en fait, Pluton, quasiment, traverse la ceinture de Kuiper, en fait, dans son orbite. Et si on va encore plus loin? Alors là, en fait, on ne sait pas, mais on a... Alors là, c'est une hypothèse. On suppose l'existence de ce qu'on appelle le nuage de Oort. Mais là, on est beaucoup plus loin. Là, on est entre 20 000 à 100 000 unités astronomiques. Donc un gros nuage sphérique, d'où proviendraient les comètes, en réalité.
Jusque là, tu parlais en unité astronomique en mètres.
Ouais, et ben, donc là, du coup...
À 20 km.
20 km.
Ah oui.
Entre 20 et 100 km. Et 100 km, c'est un peu la limite de l'influence gravitationnelle du Soleil. Mmh. Alors, en réalité, la force de gravitation est infinie. La portée de la force de gravitation est infinie. Mais, en fait, il y a un moment où elle devient tellement faible qu'elle agit sur plus grand-chose.
Oui.
Mais bon, on sait bien que deux étoiles proches ont quand même une interaction gravitationnelle. Mmh. Donc là, justement, si maintenant on passe à Proxima du Centaure, Proxima du Centaure, qui est un peu plus de 4 années-lumière de nous, ça fait 270 000 unités astronomiques, donc on passe à 270 km.
Oui.
Donc voilà, si on met le système solaire, grosso modo, il va faire, si on prend cette échelle de 1 mètre pour la distance Terre-Soleil, on a un système solaire qui fait à peu près 30 mètres. Là, le nuage de Oort, il est à 270 km. Le nuage de Oort est à 100 km, oui. et l'étoile Proxima du Centaure à 270. Oui. Alors, donc pour donner une année-lumière, c'est 63 000 unités astronomiques. C'est ça qui permet un peu de faire la conversion. Alors donc, si on visualise un peu tout ça, ça veut dire qu'on a une étoile, qu'on a relativement loin de cette étoile, donc en fait à peu près une année-lumière ou une année et demie, la fin de son nuage de Oort. On peut tout à fait imaginer que l'étoile suivante, Proxima du Centaure, est aussi une sorte de nuage analogue. Il n'y a pas de raison que ce soit spécifique au Soleil. Donc, en fait, entre ces deux nuages, il y aura une petite zone là, de une ou deux unités astronomiques qu'on va appeler le milieu interstellaire, qui est vraiment ce qu'il y a entre les étoiles. Mais il faut aller loin pour le chercher.
Ouais.
Et donc, maintenant voilà, que j'ai fait cette petite introduction, eh bien, je vais vous parler de ces sondes. L'objet humain le plus lointain de nous, c'est Voyager 1, qui a été lancé en 1977 et qui émet toujours.
Et il est à...
qui est à 160 mètres. Unités astronomiques.
Ah, même. Okay.
Donc c'est vrai que Voyager 1 est plus loin que la ceinture de Kuiper, beaucoup plus loin, mais 160 UA. Donc à comparer avec les 270 000 pour aller à l'étoile suivante.
Et oui.
Donc voilà, l'objet le plus lointain que les humains ont envoyé dans l'espace, c'est Voyager 1. Alors c'est loin, oui, c'est quand même très très loin, 160 unités astronomiques, mais à l'échelle du cosmos, ça reste encore infime. Alors a priori, Voyager 1 épuisera ses batteries en 2025, et devrait cesser d'émettre donc l'année prochaine. Voilà. Alors, donc on va partir un petit peu, le nombre de missions spatiales lointaines actuelles est assez limité. C'est-à-dire que, en fait, vous en avez 4.
Ah oui.
Il y en a 4, il y en a 3 qui sont en transit, c'est-à-dire qui sont en cours, et il y en a 2 qui sont en développement. Et là, on a fait le tour.
Ah oui.
Donc, je vais parler d'abord des précurseurs, en fait, de tout ça, qui sont les sondes Pioneer 10 et 11, qui sont toujours vivantes, mais pas actives. Elles n'émettent plus. Donc elles ont été envoyées en 1972 et 1973, et en fait elles ont servi pour faire de la reconnaissance pour les sondes Voyager.
Okay.
Donc c'était elles vraiment les pionnières de l'exploration du système solaire, et qui avaient surtout pour but d'explorer Pluton à l'époque. Alors, donc, on a envoyé ces pionniers, on est allé voir Pluton, et surtout, on s'entraînait à envoyer des objets plus loin que Jupiter, donc en utilisant les effets de fronde gravitationnelle, hein, dont on a déjà parlé, mais on utilise la masse de Jupiter pour faire tourner la sonde autour et pour, en fait, l'accélérer et l'envoyer plus loin dans le système solaire, ce qui permet d'économiser du carburant. Donc Voyager 1, en 1977, elle a survolé Jupiter, elle a survolé Saturne, et aussi, c'est elle qui a fait cette image du pale blue dot, le pâle point bleu dont on a déjà parlé, et qui est en fait une photo de la Terre vue depuis Neptune ou...
Depuis Uranus,
non ? Uranus, bon, une des géantes...
Je crois que c'est pas loin d'Uranus, c'est à 6 milliards de kilomètres.
Ouais, donc autour d'Uranus, voilà. Ouais. Et effectivement, on voit la Terre comme un petit point bleu,
un petit
pâle.
Pixel.
Donc voilà. Alors ensuite, on a eu la sœur jumelle de Voyager 1, c'est Voyager 2, qui a été lancée la même année, toujours en 1977, et qui, elle, est la seule sonde à avoir survolé les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs le seul objet humain à avoir survolé Uranus et Neptune.
Ah oui.
Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres, dans les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé d'autres sondes qui aient survolé ces planètes qui sont quand même vraiment loin.
Mais oui.
Donc pour quand même ramener aussi les échelles, hein, on parle beaucoup en ce moment d'aller sur Mars, on envoie beaucoup de sondes sur Mars. Mais Mars, on l'a dit, si on prend notre échelle de 1 mètre, elle est à 1,50 m. Là, on est sur des Uranus et Neptune, on est à 20 mètres, 30 mètres. Mmh. Donc on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Que tout ce qu'on sait faire, en fait. Donc, et ça prend du temps pour aller là-bas. Alors voilà pour ces sondes qui... Donc elle, maintenant, elle est à 136 unités astronomiques. Donc elle aussi, dans une autre direction que Voyager 1, elle part, en fait. Elle est un peu moins loin, mais elle a aussi largement dépassé la ceinture de Kuiper. Et donc elle erre dans cet espace... C'est le début du milieu interstellaire, on va dire, mais pas tout à fait non plus, puisqu'on a le nuage de Oort entre les deux.
Ouais.
Le milieu interstellaire, oui. Mais on est quand même, en tout cas, en dehors du système solaire, largement, quoi. Donc voilà pour ces deux sondes. Les deux sondes pionnières aussi, qui sont en train de partir. J'ai pas réussi à trouver les distances, mais elles sont moins loin, de toute façon. Et voilà. Alors, la troisième sonde... Qui est active actuellement, c'est New Horizon.
Ouais.
Alors New Horizon, c'est beaucoup plus récent. C'est un projet qui a été lancé en 2006. Enfin, le lancement de la sonde, ça a été en 2006. Et là, maintenant, elle est à 60 unités astronomiques. Donc en fait, elle vient de sortir aussi de la ceinture de Kuiper. Donc elle a été conçue pour étudier Pluton, justement.
Et oui, c'est elle qui nous a donné... Donc c'était en 2012, non c'est, je ne sais plus en quelle année elle est passée près de Pluton et qu'elle nous a donné des images magnifiques, réactualisées, parce que justement les dernières images, les précédentes images,
c'était Voyager.
De Voyager, donc, avec une qualité photographique beaucoup moins bonne.
C'est clair, on a quand même 30 ans d'écart de technologie, c'est sûr que ça fait une sacrée différence.
C'est ça.
En particulier, New Horizon est passé donc, dans la ceinture de Kuiper près d'un astéroïde qui s'appelle Arrokoth en 2019.
Oui.
Elle nous a permis aussi d'observer ça. Et puis, la quatrième sonde active, plus lointaine que la ceinture d'astéroïdes, c'est Juno, qui a été lancée en 2011 et qui, elle, comme son nom l'indique, est là pour étudier Jupiter. Mais donc, elle ne quitte pas le système solaire, elle tourne autour de Jupiter et elle est encore active. Elle donne encore des renseignements. Alors, c'est une technologie qui a quand même plus de 10 ans maintenant. Donc, on va en reparler. Il y a maintenant des sondes, en fait, qui sont des sondes plus récentes qui ont été lancées vers Jupiter. En particulier, on a la sonde Lucy, qui a été lancée en 2021 et qui est en transit, c'est-à-dire qui arrivera autour de Jupiter en 2027. Et elle, en fait, son but, c'est d'étudier les astéroïdes troyens de Jupiter.
Oui.
Alors, ce qu'on appelle les astéroïdes troyens, c'est pas vraiment des satellites. C'est plus petit en général, c'est des petits astéroïdes, mais c'est des astéroïdes en fait qui sont en résonance avec la planète. Toutes les planètes en fait en ont, la Terre en a, toutes les planètes ont ce qu'on appelle des astéroïdes troyens. Ces astéroïdes qui sont assez éloignés de la planète, mais qui plus ou moins orbitent autour quand même, qui sont piégés un peu par des effets gravitationnels. Et en particulier Jupiter, qui est la planète de loin la plus massive, a une cohorte d'astéroïdes troyens. Et donc cette sonde Lucie va les observer à partir de 2027, si tout se passe bien. On a ensuite la sonde JUICE, dont on a déjà parlé. C'est un acronyme pour Jupiter Icy Moon Explorer, qui elle a été lancée l'année dernière, en 2023. On avait fait une émission là-dessus. Et qui elle va aussi, comme son nom l'indique, observer les lunes glacées de Jupiter, donc le système jovien, qui sera sur place en 2031. Donc il va falloir un petit peu de patience encore. Donc on voit déjà, on est là à parler des échelles du système solaire, à parler de 20, 30, 60 UA, 160, 100 000, etc. Mais là, rien que pour aller sur Jupiter, qui est donc à 5 unités astronomiques, il faut 8 ans.
Oui.
Alors, elle n'y va pas en ligne droite. C'est aussi ça, hein. Elle fait des tours, en fait, toujours, toujours sur ces thématiques de fronde, où on va tourner autour d'une planète pour être relancé, etc. Mais voilà, il faut 8 ans pour aller jusqu'à Jupiter. Donc imaginons, si on veut des retours d'échantillons, c'est des missions qui vont prendre 20 ans, quoi. Enfin,
et, oui. Voilà.
Et la dernière sonde, c'est Psyché. Psyché, qui a été lancée aussi l'année dernière, en 2023, et qui, elle, en fait, part pour la ceinture d'astéroïdes, pour étudier un astéroïde qui s'appelle Psyché.
Ah, ok.
Et qui arrivera sur place en 2029.
Okay.
Là, donc là, voilà, c'est quand même des projets entre le moment où, parce que bon, il faut quand même plusieurs années pour élaborer, pour réellement, avant le lancement, préparer le lancement, créer la sonde, l'imaginer, réaliser les instruments, tout tester, etc. Ça prend plusieurs années. Ensuite, là, il faut 6 ans pour aller à la ceinture d'astéroïdes. Pour aller observer les choses. Donc c'est pour ça, voilà. Donc je me suis concentré un petit peu sur ce qui se passait en dehors de la ceinture d'astéroïdes, plus loin que la ceinture d'astéroïdes, dans le système solaire externe. Par contre, on a énormément de sondes autour de Mars, ça c'est sûr. On a énormément de sondes autour du Soleil qui l'étudient. Sur la Lune, là, on a des allers-retours qui sont de plus en plus fréquents, hein, ces dernières années, et puis ça va s'accélérer. On a déjà parlé avec le remplacement de la station spatiale internationale par le Gateway, qui sera en orbite autour de la Lune et qui servira un petit peu de point relais. Et éventuellement de points relais pour l'exploration martienne, à voir, quoi. Donc il y a plein de choses qui se passent entre la Terre, Vénus aussi, il y a des sondes qui l'étudient, Mercure aussi, mais le gros du troupeau, c'est quand même Mars et le Soleil, qui concentrent un peu le gros des sondes.
Ouais.
Alors sans parler évidemment de tous les satellites qui sont autour de la Terre,
qui ont d'autres
mais qui servent pour la Terre.
Oui, voilà.
Il n'y en a que
pour l'exploration.
Non, ils ne sont pas pour l'exploration, sauf le James Webb télescope ou des choses comme ça, qui eux ont les yeux tournés vers l'extérieur.
Même Planck ou d'autres, mais oui, c'est vrai que le plus gros de ce qu'on envoie, c'est quand même pour nos besoins.
Pour nos besoins humains.
Ou besoin ou pas, d'ailleurs, ça peut être discutable.
Oui, besoin ou pas, ça se discute, c'est ce qu'on a réellement besoin
pour
de la 5G.
Météo, pour Internet.
Ouais, ça se discute. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ces sondes. Donc, je vais terminer ça, en fait, en vous parlant de deux sondes qui sont en projet, c'est-à-dire qui ne sont pas encore lancées. Donc, on a d'abord Europa Clipper, qui est un peu plus qu'un projet, parce qu'elle est censée être lancée cette année, en octobre.
Ah oui.
Donc, qui, elle, a pour but d'aller étudier Europe.
Un satellite de
Jupiter.
Ouais.
Donc là, ce qu'on voit, hein, c'est qu'on est, on est quand même entre Lucy et Juice, qui sont les sondes qu'on prépare, qui vont vers Jupiter ou vers son système. Là, on est encore sur Europe avec Europa Clipper. Donc Jupiter, c'est quand même aussi l'étape d'après, quoi.
Oui.
Mais c'est normal, c'est celle qui vient après. Donc ceinture d'astéroïdes, bon là c'est plus un intérêt, il y a quand même Cérès ou certains corps, etc. C'est plus un intérêt, on va dire, vraiment scientifique, pour essayer de comprendre un petit peu l'origine du système solaire, puisque a priori tous ces astéroïdes-là datent plus ou moins de la création du système solaire. Donc il y a quand même un intérêt à les étudier. Mais voilà. Et Jupiter aussi, le gros intérêt, c'est que quand même, on a déjà parlé, mais en planétologie actuellement, on détecte énormément de planètes qui sont de type Jupiter. Donc avoir une meilleure connaissance de Jupiter, c'est aussi intéressant, quoi. Et puis la dernière, c'est Dragonfly. Dragonfly qui partirait peut-être en 2028 et qui, elle, a pour but d'étudier Titan. Donc là, cette fois, on est sur un satellite de Saturne. Donc là, on passe. Voilà, c'est le seul projet, en fait, pour aller vers Saturne actuel. Sachant qu'il y a quand même des débats, on en a un petit peu parlé aussi chez les planétologues, et c'est qu'il y a des satellites, en fait, de Saturne qui sont extrêmement intéressants en termes de vie potentielle, donc Titan. Il y a Encelade aussi. Qui intéresse énormément, parce qu'avec des océans qui sont glacés en surface, mais qui a priori pourraient être liquides avec de la géothermie, etc., qui permettrait d'avoir des conditions de vie proches de celles de la dorsale océanique sur Terre, et où la vie foisonne. Donc en fait, il y a quand même un intérêt aussi, de ce point de vue-là, à aller explorer autour de Saturne, mais qui serait d'ailleurs a priori peut-être plus intéressant que Europe autour de Jupiter, mais c'est beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de contraintes, et voilà, donc c'est le seul projet Dragonfly qui vise Saturne en fait, et qui peut-être partira en 2028. Voilà ce que j'avais à dire sur ces petits recensements de ces petits objets qu'on envoie dans l'espace. Là, on parle d'une sonde, ça fait quoi? Ça fait 200-300 kilos. Hein. C'est pas des choses monstrueuses en réalité. Ce sont des petits objets.
C'est gros comme une petite voiture.
Quelque chose comme ça. Tringo, qui dérive comme ça dans l'immensité de l'espace en émettant du signal. Petit côté un peu fascinant quand même, ces explorateurs.
Comme nous émettons chaque dimanche sur Radio Diwa, et on vous invite à nous écouter. Je crois que t'as fini.
J'ai tout à fait fini.
Et ben donc à nous écouter, puis à écouter aussi tout le reste de la programmation de Air Diwa, qui est excellente.
On vous souhaite une bonne semaine et de belles observations.
Ouais. Salut.